Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, nous décryptons ensemble l'économie avec nos invités, notre grand témoin et nos experts. Et pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Julien Bouissou. Bonjour Julien.
Bonjour Fabrice et bonne année.
Chef de service argent et placement au magazine Capital. Merci Julien, c'est vrai, c'est encore deux saisons. Eh bien, justement, en ce début d'année, on s'intéresse bien sûr au sujet de début d'année,
l'assurance vie. Exactement, oui. Les taux de rendement de l'assurance vie, les taux de rendement du fonds euro. Alors, certains assureurs qui ont commencé à publier les taux ont surpris, hein, parce qu'il y a des taux stables, voire en hausse. Alors, on peut se demander, est-ce enfin le retour d'un fonds euro bien rémunérateur, voire de la hausse des taux. Comment ce fonds aussi va pouvoir évoluer dans les prochaines années, parce que les assureurs commencent à le modifier un peu sur la garantie et sur la promesse de gain. Pour en parler avec nous aujourd'hui, un spécialiste du secteur, Cyril Chartier-Kassler, vous êtes le fondateur du site Good Value for Money, qui compare un peu les contrats d'assurance, les labellise. Bonjour Monsieur Chartier-Kassler.
Bonjour Julien.
Good Value for Money,
oui.
En bon français. Hein.
Voilà, bon rapport qualité-prix.
Je vous ai choisi un bon titre, là.
Avec une vocation internationale.
Voilà, vous allez nous présenter ça dans un instant. Et puis, comme d'habitude, on retrouvera le coup de cœur, coup de gueule par notre ami Pierre Sabatier, le président de PrimeVoo. Et en dernière partie d'émission, nos experts qui répondront aux questions de Timo Lamy. Voilà pour le sommaire. Le grand rendez-vous de l'épargne spécial fonds euro. Est-ce enfin la fin de la baisse? C'est parti.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
On démarre donc avec notre grand témoin, Cyril Chartier-Kassler, fondateur de Good Value for Money. Je le disais, première question, Cyril, pour vous qui êtes un spécialiste, on a vu que ces rendements de l'assurance vie cette saison, ils sont toujours en baisse, en tout cas depuis certaines années. Et là, on a l'impression qu'on a peut-être atteint un point bas avant, pourquoi pas, un sursaut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la configuration?
Alors, cette année, effectivement, il y a eu un ensemble d'événements particuliers. Premier phénomène, c'est tout de même la forte hausse des marchés financiers durant toute l'année 2021, voilà, qui a permis à pas mal d'assureurs de réaliser des plus-values et de soutenir le rendement de leurs fonds en euros. Voilà. Deuxième élément, c'est...
C'est-à-dire, juste, c'est intéressant cette notion, les assureurs peuvent booster, c'est ça, le rendement fonds en euros, s'ils font finalement du gras sur les fonds actions?
Tout à fait, il y a environ 8% d'actions dans l'actif d'un fonds en euros. Donc si ces 8% performent sur l'année de 20 ou de 30%, 20% de 8, ça fait 1,6%. Donc ça permet de soutenir significativement la performance du fonds en euros. Voilà. Puis également les dividendes sur actions, bien évidemment. Voilà.
D'accord.
Donc premier phénomène, c'est la forte hausse des marchés actions qui permet de soutenir le rendement financier des fonds en euros, en sachant qu'en parallèle, la poche obligataire baisse fortement. Voilà. Deuxième phénomène, c'est la situation de forte remontée de l'inflation depuis le deuxième semestre 2022, qui est pas mal poussée, on le sait, par tous les prix de l'énergie. Et derrière cette forte poussée d'inflation, il y a les perspectives de remontée des taux, surtout aux États-Unis, de notre point de vue.
Donc il y a certains assureurs qui se sont dit, les taux vont remonter, donc ça nous donne espoir que dans les prochaines années, on soit un peu mieux rémunérés. Donc cette année, on distribue plus. Voilà, c'est un peu leur raisonnement.
Exactement, voilà. Moi, ce qui me frappe sur le marché aujourd'hui, c'est qu'on voit deux catégories d'opérateurs dont les politiques, à mon avis, dépendent des orientations de leurs économistes. Il y a des opérateurs qui disent finalement, la baisse des taux est terminée, les taux vont monter en Europe comme aux États-Unis, et donc on commence à remonter tout doucement les taux services sur nos fonds en euros. Deuxième catégorie d'opérateurs qui disent finalement, les taux remontent aux États-Unis, mais en Europe, l'Europe est vieillissante, elle a une économie qui est extrêmement fragile. Donc les taux ne monteront pas plus de 30 à 40, 50 centimes en France. Et donc le rendement de la poche obligataire du fonds en euros va continuer à baisser.
Donc là, on a l'impression que c'est plutôt du côté des gros assureurs, hein, parce qu'il faut quand même signaler que les gros assureurs ont plutôt encore un peu baissé leur rendement. Comment ça s'est réparti entre les petites mutuelles, les gros assureurs, les banques assureurs? Ils n'ont pas la même politique.
Hein, non, on voit des politiques extrêmement contrastées. Il y a quelques opérateurs qui ont augmenté les taux servis. Dans ces opérateurs, on va surtout trouver ce que j'appellerais des outsiders ou des opérateurs de taille petite à moyenne. On va trouver par exemple la MACSF, qui est un opérateur de taille moyenne, qui a bien performé sur le long côté. On va trouver le conservateur, qui est un groupe de taille moyenne aussi, qui a bien performé. Deuxième catégorie d'opérateurs, ce sont ceux qui ont des taux qui sont stables. Et là, à mon avis, on va trouver beaucoup de banques assureurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que les banques assureurs, premièrement, ils ont des taux qui étaient extrêmement bas.
Ils étaient déjà très bas, en dessous de 1%.
En dessous de 1%, on voit des gens comme CNP ou Prédica qui avaient des taux servis à 0,50. Donc 0,50, quand le livret A remonte à 1%, ça fait un petit peu mal.
On ne peut pas faire autrement que
de... Deuxième élément sur les banques assureurs, c'est que certains ont des provisions pour participation bénéfice extrêmement importantes. Des gens comme Crédit Mutuel Centre-Est Europe, donc le groupe des assurances du Crédit Mutuel, qui a 7% de PPB. Donc à un moment, il faut bien faire quelque
chose. Donc ça, c'est la réserve de gains. On va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais juste rapidement, c'est 7%. Ça veut dire que si on part sur un taux moyen de 1% de rendement, c'est-à-dire qu'ils ont 7 années, ils peuvent servir 7 années de rendement.
Exactement. Voilà, c'est considérable.
Il y en a certains qui puisent.
En revanche, avec la remontée potentielle de l'inflation et des taux, puisqu'on attend, on va scruter ce que vont faire les banques centrales, mais la Fed a déjà prévenu qu'elle allait peut-être participer à faire 2-3 hausses de taux dans l'année, ou peut-être 4 même. Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement sur le stock, c'est-à-dire ces obligations qui étaient vraiment... le stock des assureurs a pris extrêmement bas. On sait que quand les taux augmentent, ce n'est pas bon pour les assurances.
C'est tout le phénomène d'inertie entre le stock d'obligations en portefeuille et puis, ce que je peux servir aux assurés, on va prendre l'exemple du livret A, qui est beaucoup plus à un taux que je qualifierais de spot, donc beaucoup plus conforme à la situation immédiate des taux d'intérêt et d'inflation. L'assurance vie, pendant 30 ans, a bénéficié du phénomène de baisse des taux. Donc, je servais aujourd'hui un rendement élevé parce que j'avais acheté hier des obligations à des taux élevés. Maintenant, l'assurance vie va se retrouver complètement prise un petit peu en sandwich, avec un portefeuille dont le rendement obligataire va diminuer, des taux d'intérêt qui remontent. D'où l'utilité de cette provision pour participation bénéfice, qui va permettre aux assureurs d'amortir ce choc de baisse de performance financière de la poche obligataire pour être capable d'accompagner leurs épargnants et puis tout doucement de revenir sur une hausse du taux servi.
Julien, on rappelle les montants colossaux quand même de l'assurance vie pour les Français. C'est une enveloppe qui va dépasser dans les semaines à peu près qui suivent 2000 milliards d'euros, puisque ça va être extrêmement bien collecté. Et à peu près les trois quarts, peut-être un petit peu plus, sont investis dans ces fameux fonds d'État. On sent quand même que ce stock, ça va être long de changer de braquet.
Ce sont...
C'est du temps long.
Oui, c'est du temps extrêmement long. On voit que des assureurs comme AXA qui ont pour politique... de faire fondre tout doucement l'encours de leur fonds en euros. Rien qu'avec le phénomène de capitalisation des intérêts sur le fonds en euros, AXA réussit à faire baisser ses encours en euros seulement de 0,5 à 1% par an. Donc c'est extrêmement long comme phénomène d'érosion. Et puis en parallèle, la poche unité de compte, elle, a un encours qui varie beaucoup selon l'évolution des marchés financiers. Bien sûr. Là aussi, il faut être prudent.
Et comment on peut juger l'évolution à venir de l'accès aux fonds euros? Parce qu'une des politiques justement des assureurs, c'était d'en limiter l'accès, soit en mettant des quotas d'investissement, soit en modifiant un peu la garantie. Alors là-dessus, on doit s'attendre à du mieux aussi. C'est-à-dire je vais pouvoir à nouveau verser un peu plus, voire à 100% sur mon fonds euro, ou on va garder les mêmes politiques de réduction des encours, cette réduction des encours fonds euros?
Alors je pense qu'on va garder cette même politique, effectivement, de ce que j'appellerais de jugulation de la croissance nette, donc après taux d'intérêt des fonds en euros. Le marché est assez contrasté là-dessus, parce qu'il y a des opérateurs qui, eux, sont très fermes en disant « j'exige 30, 40, 50% d'unités de compte dans les versements ». Donc c'est assez dur pour l'épargnant. Et de mon point de vue, ça pose un problème par rapport au devoir de conseil. Lorsque vous avez une personne de 75 ans qui est atteinte d'un cancer, lui dire « j'oblige 50% d'unités de compte », ce n'est pas évident. Deuxième catégorie d'opérateurs, et l'entrée des gens comme AXA, je trouve que ce qu'ils font, c'est pas mal. C'est qu'en fait, leur politique, c'est évidemment de faire monter le taux d'unité de compte dans la collecte et dans les encours, mais sans s'interdire de prendre des contrats 100% fonds d'euros. D'accord. Je trouve ça beaucoup plus pragmatique. C'est également
avec
ce que fait Swiss Life.
C'est une politique de bonus, c'est ça. C'est des bonus de rendement on est investi pour partie ou en grosse partie sur les marchés financiers.
Exactement. C'est exactement ce que fait Swiss Life, qui a des taux servis qui peuvent aller de 0,80 au minimum jusqu'à 2,90 au plus. Vous voyez qu'il y a un spectre qui est énorme.
Garantie? Garantie?
Non, ce n'est pas garantie. C'est taux servis en fin d'année.
Très bien.
Y compris bonus. Le bonus étant lié à la part d'unité de compte et également à l'encours du contrat, il faut plus de 250 000 euros.
Voilà, donc plus on aura finalement d'unités de compte, plus on sera rétribué, entre guillemets, sur cette partie censée être très sécuritaire, évidemment, le fonds euro.
Dernière question sur la garantie, justement. Alors, il y a certains fonds qui se comportaient bien chez Suravenir, qui vont être fermés. Et ils les ferment pourquoi ? Parce qu'ils vont lancer des nouveaux, mais qui n'auront pas la même garantie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors, est-ce que l'épargnant doit se méfier maintenant ou qu'en pensez ?
Alors, le vrai sujet qui est derrière, c'est deux choses. Tout d'abord, le niveau des taux d'intérêt qui fait que la poche obligataire rapportant extrêmement peu, il faut diversifier sur des actifs comme les actions et l'immobilier. Deuxième phénomène, c'est le coût pour l'assureur des normes prudentielles solvabilité 2. Donc l'assureur, dans ce contexte, a tout intérêt à abaisser la garantie du capital pour l'épargnant. Il peut la baisser à 98%. C'est par exemple le cas du fonds euro nouvelle génération chez Spirica. Ouais. La baisser à 96%, c'est ce que fait le fonds Euroflex chez Apicil. L'intérêt de faire ça pour l'épargnant, c'est que ça permet à l'assureur, bien évidemment, sur ces 2 ou ces 4%, l'assureur va prendre 1% de frais. Et le reste, ça va permettre de diversifier l'actif pour aller chercher plus de rendement.
Donc sur le long terme, on espère être gagnant, parce qu'il y aura plus de rendement, voilà. En contrepartie d'une moindre garantie.
Exactement, voilà.
Et chez Suravenir, pardon, c'est un peu différent. Maintenant, le capital est garanti brut de frais de gestion, c'est ça ?
Oui,
c'est ça. C'est-à-dire, je verse 100, et si une année, le contrat rapporte 0, on enlève les frais de gestion de 1 ou 2 points de l'assureur, on se retrouve pareil avec 99 ou 98, mais voilà. Ça revient au même.
Voilà. Ça, quasiment tout le marché fait ce mouvement de bascule d'une garantie nette de frais à une garantie brute de frais, toujours pour se donner de la souplesse afin d'aller chercher du rendement sur actions immobilières. Ce qui est intéressant, c'est le discours de Spirica lorsqu'ils ont lancé leur fonds Euro Nouvelle Génération. Ce qu'a dit Daniel Collignon, c'est que son objectif, c'était de passer de 20% de poche de diversification aujourd'hui, donc actions immobilières et puis éventuellement du non-côté, et passer à 30% à terme grâce à ce mécanisme. Et en fait, ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est comme ça qu'on peut aller chercher du rendement.
Très bien. On va enchaîner avec un reportage que vous avez réalisé, Julien, sur la MIF, avec l'interview d'Olivier Santis, c'est le directeur général de cette mutuelle, qui s'exprime justement sur la politique en matière de PPE, de provision. On va voir ce qu'il en dit tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
Cette année, vous avez servi un taux stable à 1,70% tout en augmentant vos réserves de rendement. Comment cela a-t-il été possible ?
Cette année, nous avons doté notre provision pour participation des excédents tout en servant un taux de 1,70% qui est un montant élevé par rapport à ce que nous faisons habituellement. Ceci est une décision qui a été prise en fonction de l'inflation. Et ça l'a été permis parce que nous avons des revenus financiers qui ont été réguliers, qui sont composés pour plus des trois quarts de rendement obligataire, mais aussi grâce à un quart de placements actions, immobilier et diversification qui ont apporté une quote-part de revenus supplémentaires. Et puis nous avons prélevé des plus-values que nous avions également.
Fin 2021, cette réserve pesait 3,47% de vos encours, soit l'équivalent de 2 ans de rendement. Jusqu'où peut-elle encore grossir ?
Avec près de 3,5% de provision pour participation aux excédents, nous estimons avoir une surface suffisante pour faire face aux scénarios adverses que nous pourrions rencontrer, en particulier le scénario de hausse des taux qui est certainement en train d'arriver dans les prochaines années. Donc nous pensons que nous avons atteint le bon niveau, qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà, très largement au-delà, mais nous sommes renforcés encore en ajoutant à cette provision pour participation aux excédents. Nous sommes donc prêts pour ces scénarios adverses.
À partir de quand et selon quels objectifs cette réserve commencera-t-elle à être redistribuée ?
Alors, cette réserve a vocation à être redistribuée dès lors que les taux vont remonter, les taux courts et puis les taux longs, et que l'actif n'aura pas encore généré assez de puissance pour dégager des produits financiers suffisants. Donc pour compenser cela et pour être concurrentiel vis-à-vis des placements bancaires à court terme qui pourraient offrir de bons rendements, nous pourrions puiser dans cette provision pour participation aux excédents. C'est ce que nous ferons dans les prochaines années si l'inflation, les taux remontent à un niveau tel que les autres placements pourraient être concurrentiels par rapport à notre taux service.
Les épargnants qui seraient obligés de fermer leur contrat avant la redistribution ne pourraient-ils pas se sentir floués ?
On ne peut pas dire que les épargnants qui quitteraient avant la distribution complète de cette provision pour participation aux excédents serait flouée, car ils ont le but de cette provision est de lisser dans le temps le rendement, de sorte que toutes les générations aient une rémunération équivalente et juste. Et donc, il y a effectivement une solidarité intergénérationnelle, mais qui est à des fins de justice et non pas pour favoriser telle ou telle génération d'épargnants.
Intégrez-vous, comme c'est possible, une partie de cette réserve dans le calcul de votre marge de solvabilité ?
La réserve, la provision pour participation des excédents, participe au fonds propre de l'assureur. Donc forcément, ce sont des éléments qui comptent pour la marge de solvabilité et on doit en tenir compte pour l'ensemble de notre solvabilité. Néanmoins, elle a vocation à retourner aux assurés et ce n'est pas pour être définitivement incluse dans les fonds propres.
Voilà donc Olivier Santis, le directeur général de la mutuelle MIF, hein, sur cette hausse de rendement, perspective de distribution.
Oui, donc on voit, hein, ce débat sur les réserves de gains, on va appeler ça comme ça, hein, par simplicité. Donc cette année, ils ont un petit peu alimenté, mais on sent que maintenant, c'est au plus haut. Alors, quelle est la position du marché au global sur cette réserve de gains ? Donc, on a tendance à l'alimenter encore, cette réserve ?
Alors, cette réserve de gains, donc, qu'on appelle la provision pour participation bénéfice, nous l'évaluons à fin 2020 à 65,6 milliards d'euros, ce qui représente 4,52% de rendement réserve. Voilà. Alors, ce qu'on voit tout de même, c'est qu'au fil des années, les assureurs ont tendance à l'alimenter un petit peu moins qu'auparavant. Je pense qu'en 2021, avec la très belle performance des marchés boursiers, on va à nouveau avoir une hausse probablement de l'ordre de 3 à 4, 5 milliards d'euros de la PPB du secteur. Après ça, on ira probablement vers une stabilisation. Cette PPB, elle est importante parce que, comme le disait Olivier Santis, elle est constitutive de marge de solvabilité à hauteur de 70%. Donc quand j'ai 5% de PPB, ça me donne 3,50% de marge de solvabilité supplémentaire. C'est la capacité quasiment à avoir 8 à 9% d'actions en plus dans mon portefeuille, donc à tirer le rendement.
D'accord.
Quand on voit qu'aujourd'hui l'OAT est à entre 25 et 30 centimes, acheter de l'OAT, c'est pour l'assureur engranger des pertes futures certaines. Voilà. Donc tout le rendement des fonds en euros se fera bien sous la poche de diversification avec ce mécanisme de lissage dans le temps de la performance.
D'accord. Et donc pour vous, 4,52 de réserve, c'est difficile d'aller plus haut quand même parce qu'à un moment, c'est des gains qui appartiennent aux assurés. Donc, il faut bien les redistribuer quand même à un moment. Alors, il y a une obligation au bout de 8 ans. Mais
voilà.
Donc, c'est quand même difficile d'aller plus haut ?
Non, je pense qu'on peut continuer à monter, qu'on peut aller vers du 5, 6, 7% en moyenne. Vous voyez que le crédit mutuel est à 7% aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas au détriment de l'assuré, parce que c'est ce qui permet de tenir le rendement dans le temps. Voilà. Le secteur de l'assurance-vie était extrêmement pénalisé par les normes prudentielles solvabilité 2, alors qu'aucun assurance-vie n'avait fait faillite en France. Donc cette disposition permet de contrecarrer l'impact négatif de solvabilité 2 sur la recherche de rendement avec des obligations corporates plus que souveraines, avec des obligations qui vont être du double B, du double B+, plutôt que du triple A. C'est là où on peut trouver de la performance. Voilà. Ce n'est pas en achetant du bond allemand avec un rendement nul ou légèrement positif.
Alors, c'est un peu technique, mais il y a d'autres réserves, hein, de plus-value qui existent en matière de chance-vie. Donc, il y a des plus-values latentes en actions, en immobilier. Ça, c'est des critères qu'il faut regarder aussi quand on choisit un fonds euro. Et ça peut être une source aussi de rendement futur.
Oui, c'est essentiel. Il est important de voir que les assureurs qui, en fait, ont la capacité à servir les meilleurs taux dans le temps, ce sont des assureurs qui souvent ont constitué leurs actifs il y a 20 ou 30 ans. Et c'est des assureurs que j'appelle qui bénéficient d'un effet cimetière. Voilà. C'est le cas, par exemple, de l'affaire.
Oui.
L'affaire, comme c'est un contrat qui a très bien performé historiquement, à beaucoup d'épargnants qui ont beaucoup investi dans son fonds en euros à l'époque, qui aujourd'hui sont en train de céder. Donc l'affaire, structurellement, a un fonds en euros dont l'encours diminue. C'est ce qui donne à l'affaire la capacité à verser de très bons rendements sur son taux. Voilà. C'est la même chose pour les assureurs comme la France Mutualiste, puisque les anciens combattants, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup.
Il y en a moins.
Voilà, on ne peut que s'en réjouir, peut-être moins pour la France Mutualiste. Et ces assureurs, souvent, ont un vieux patrimoine immobilier avec d'énormes plus-values et également des actions achetées à des taux, des niveaux très bas, avec des grosses plus-values potentielles. Voilà. Donc, bien évidemment, pour l'épargnant, ces assureurs-là sont extrêmement intéressants. Moi, je dis toujours, pour l'épargnant, le petit clin d'œil, c'est dire, allez chercher un assureur ou une association qui a un bon effet cimetière.
Voilà. Bon. Ah. Mais il ne faut pas trop les bruiter, parce que si tout le monde se précipite.
Mais alors, justement, parce qu'on peut se dire, quand on voit ces rendements, alors que ce soit par excès de précaution de la part des assureurs, réserves, etc., on peut se dire, tiens, à un moment, on sait très bien que les nouveaux contrats, par exemple, vont être plus attirants. Il y aura souvent des promotions. Est-ce que ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'il faut finalement casser son vieux contrat et passer sur un nouveau?
Alors, il y a effectivement un risque, si les taux d'intérêt remontent, à ce que des petits malins lancent des nouveaux contrats d'assurance vie avec des obligations qui rapporteront du 1,50, du 2% afin de doper le rendement servi. Bon. C'est un risque que je qualifierais de systémique pour le secteur. Bon, les assureurs peuvent le compenser avec toutes leurs réserves. Ce que disait Julien Bissou tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui 12% de rendement en réserve en intégrant la provision pour partie sur son bénéfice et toutes les plus-values qui sont éligibles, c'est-à-dire les plus-values sur les actions et sur l'immobilier. Voilà. Demain, si des petits malins arrivent sur le marché en disant « Moi, je lance un fonds en euros qui sert du 2, du 3% grâce à de nouvelles obligations », les autorités de tutelle seront obligées d'activer ce qui leur est possible dans la loi. C'est en fait une limitation des sorties sur les fonds en euros pour éviter, entre guillemets, une faillite du secteur qui vendrait des obligations à perte.
Ça pourrait se produire parce que ça peut aussi être organisé à l'intérieur de la même compagnie qui se dit, souvent il y a des nouveaux contrats qui sortent, cannibalisant bien sûr les anciens contrats, mais aussi on pense à la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui arrivent maintenant, qui ne sont pas encore équipés.
Alors, est-ce que ça peut arriver? Ça arrive déjà un petit peu aujourd'hui où les compagnies, notamment chez les banques assureurs, ont tendance à prendre les réserves sur les vieux contrats pour soutenir le rendement sur les nouveaux contrats. Il y a tout un phénomène qui permet de bien garder les encours, c'est les épargnants de plus de 70 ans qui n'ont aucun intérêt à racheter pour garder l'avantage successoral.
Ouais, voilà. On rappelle, bien sûr, il y a l'avantage.
Il y a toujours la fiscalité de ce produit qui fait qu'il y a une sorte d'inertie, même avant 70 ans, puisque il faut attendre 8 ans pour avoir une fiscalité d'épargne en sortie favorable. Donc, il faut quand même. Si on prend des nouveaux produits, on sait qu'on part pour 8 ans, pour avoir la fiscal.
Voilà, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de cordes de rappel dans l'hypothèse d'une hausse des taux. Et autre élément sur la hausse des taux, c'est que je pense que, alors là je peux parfaitement me tromper, mais elle sera, oui, importante aux États-Unis. L'Europe est tellement vieillissante, tellement souffrante d'un point de vue économique, que des taux d'intérêt ne serait-ce qu'à 1%, il faut être conscient que c'est 22 milliards d'euros de plus de charges sur le budget d'État français. On est incapable de le supporter.
D'accord. Vous voulez dire, Cyril Chartier-Kessler, que la BCE va essayer de monitorer ça, évidemment, pour les États endettés. Et en plus, qu'on n'aura peut-être pas le même dynamisme au niveau économique que le Nouveau Monde.
Parmi les autres arbitrages qu'on peut faire, est-ce que ça serait intéressant aujourd'hui d'aller vers un PER, parce qu'ils ont aussi des fonds euros. Est-ce que c'est les mêmes rendements qu'on voit sur les PER au sein d'un même assureur, entre l'assurance vie et les PER? Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à favoriser le fonds euro du PER maintenant?
Alors, l'assureur, tout à fait, pousse fortement les fonds en euros des PER. Il y a un autre mécanisme qui joue, qui est un mécanisme prudentiel. C'est que maintenant, la plupart des plans d'épargne retraite individuels sont mis dans ce qu'on appelle des FRPS. Ce sont des fonds de retraite professionnels supplémentaires. Ces FRPS sont bien soumis à solvabilité 2, mais de manière différente.
Avec des petites exceptions.
Donc,
ou des
sur les FRPS... L'exigence de marge solvabilité est de 4% des encours en euros. Ce n'est pas du time to market comme sur les fonds en euros classiques. Donc, grâce au FRPS, les assureurs peuvent diversifier davantage les actifs des fonds en euros des PER et servir des taux d'intérêt meilleurs.
D'accord. On a une idée un peu du différentiel de rendement cette année. C'est quoi? C'est 0,1 point, 0,2 point?
Je pense qu'on sera de l'ordre de 10 à 20 centimes. C'est pas négligeable. D'accord. Les assureurs veulent beaucoup pousser le PER. C'est évidemment un produit utile pour préparer sa retraite. Je dis tout de même à l'épargnant que ce que vous versez sur un PER, si demain vous avez besoin de financer les études de vos enfants, vous ne pourrez pas prendre cet argent-là. Vous pouvez être très prudent. Voilà. Et tout un chacun, on sait que les études coûtent une fortune maintenant. Donc, soyons prudents dans
la
les versements
réalisés sur la résidence principale, oui, mais pas les études. On ne peut pas encore.
Merci Cyril Chartier-Kassler. Je rappelle que vous êtes fondateur du site Good Value for Money. On redit l'adresse internet goodvalueformoney.eu. .eu, voilà, pour
européen.
Ce point .eu. C'est européen et il y a combien de contrats qui sont référencés ?
Aujourd'hui, on a 60 contrats de référencés. Voilà. Donc, on a un bon panel avec des filtres permettant de sélectionner selon des critères. Est-ce que j'ai un contrat avec des OPCI ? Est-ce que j'ai un contrat avec un fonds d'euros à garantie partielle ?
Donc immobilier.
Est-ce que je veux du zéro frais à l'entrée ? Est-ce que je veux tel niveau de frais en gestion pilotée, etc. ? Donc on a mis tous les filtres en place. Pour
Et rendement
choisir.
Du fonds euro aussi ?
Non. Alors non, on l'a pas mis. Voilà.
Est-ce que vous faites un top 5 des meilleurs contrats du moment ?
Ah, on pourrait. Pour l'instant, on n'a pas communiqué les notes. Chaque contrat est noté.
D'accord.
On communique les notes aux compagnies, mais pour l'instant, elle n'a pas communiqué aux internautes parce que tout contrat qui est sur le site est bon, voire très bon. Et on ne veut pas un phénomène où l'internaute n'aille que sur tel ou tel contrat sous prétexte que c'est la meilleure note. Voilà, c'est aussi délicat.
Voilà, donc à vérifier, à regarder selon votre patrimoine et votre profil, bien évidemment. Merci donc Cyril Chartier-Kassler. Merci Julien Bouissou, chef de rubrique au service de la rubrique placement au magazine Capital.
Exactement.
Et on se retrouve avec vous très prochainement. Pour l'instant, c'est l'heure de notre rubrique coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule.
Nous commençons par le coup de gueule. Le coup de gueule, il est à l'encontre en fait des investisseurs, notamment sur les marchés actions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on vit une période de stress relativement intense. Donc les marchés, que ce soit actions européens qui baissent de 8% quasi en ligne droite, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, les marchés américains aussi, le Nasdaq, l'indice phare qui représente les valeurs technologiques aux États-Unis, baisse de près de 15% en quelques semaines. Alors si c'est un coup de gueule, c'est pas tellement parce que les marchés baissent, mais c'est plutôt à l'égard des investisseurs qui finalement découvrent, ou on a l'impression qu'ils découvrent que les marchés actions, notamment les actifs risqués, ça peut monter, mais aussi ça peut baisser. Et donc ce qui nous paraît surprenant, c'est cette forme de panique associée en fait à un mouvement de baisse qui, d'une certaine manière, doit être relativisé aussi à l'égard du parcours à la hausse qui a été parcouru jusqu'à maintenant, hein, puisque les marchés ont beaucoup monté en 2021. Donc le coup de gueule, c'est plutôt pour cette capacité en fait à prendre peur à la moindre mauvaise nouvelle dès qu'on a un problème que l'économie peut rencontrer ou une incertitude en provenance de la politique monétaire, les investisseurs ont tendance à paniquer. Or, le métier d'un investisseur professionnel, quel est-il ? Il est essentiellement de protéger, j'ai envie de dire, celui qui vous lui confie son patrimoine de ses accès d'enthousiasme bien sûr, mais aussi accès de stress. Voilà. Et donc aujourd'hui, le coup de gueule, il est plutôt à l'égard des investisseurs qui ont du mal finalement à assumer leur rôle de rempart vis-à-vis en fait des accès de stress qui peuvent provenir notamment en l'occurrence de la politique monétaire et des inquiétudes qui sont nées du changement de temps, du changement de braquet de la Banque centrale américaine qui a tendance, en tout cas qui maintenant diffuse des messages d'augmentation des taux, chose qu'on n'avait pas vécue maintenant depuis de nombreuses années. Voilà, donc ce coup de gueule, il est vis-à-vis des investisseurs. Les marchés actions, ça monte, tant mieux, ça baisse aussi. Il faut savoir en fait arriver à gérer en gros les deux émotions associées à ces deux parcours, l'un bien évidemment beaucoup plus plaisant que l'autre. Le coup de cœur ce mois-ci, et de manière surprenante, on va prendre à contre-pied beaucoup de monde, on va le donner au fonds euro. Ça fait de nombreuses années hein, que le fonds euro est décrié par son incapacité finalement à offrir du rendement aux gens qui le choisissent comme support d'investissement. Eh bien, évidemment, hein, après une année 2021 durant laquelle les grands indices boursiers ont fait plus de 25%, les rendements associés au fonds euro paraissent presque ridicules. Mais ce qui est intéressant et pourquoi c'est un coup de cœur, c'est nous sommes en train de vivre, on vient de l'évoquer en gros, un accès de faiblesse, c'est-à-dire que les marchés sont en train de baisser. Il est probable d'ailleurs que 2022 soit beaucoup plus difficile sur les marchés financiers, sur les marchés actions que 2021. Pas forcément très baissier, mais en tout cas moins directionnel aussi, moins porté par un effet de base positif hérité de la crise sanitaire, une politique monétaire toute voile dehors qui a permis aux marchés financiers de bénéficier d'un excès de liquidité absolument pharaonique. Donc sans être trop pessimiste pour 2022, il est probable qu'on soit sorti finalement de cet environnement directionnel haussier qui faisait que tout simplement il suffisait d'être sur le marché pour gagner. Eh bien, à partir du moment où le directionnel aussi est CFA, c'est-à-dire que maintenant les marchés d'actifs risqués vont osciller autour du niveau actuel, voire même un petit peu en dessous, eh bien, de manière assez étrange, on retrouve des vertus aux actifs qui certes ne rapportent pas beaucoup, mais évitent aussi de perdre. Et ce coup de cœur, il vient simplement du fait qu'il ne faut jamais oublier dans la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, que, évidemment, si vous êtes dans une situation d'accumulation de capital, vous avez besoin de performance. Mais si vous êtes dans une situation en fait, où le patrimoine est là et vous simplement vous voulez le faire gérer, eh bien, la notion, en gros, les objectifs sont importants. Et il faut les rappeler. L'objectif en fait, de la gestion de patrimoine, c'est la gestion optimale du patrimoine accumulé. Et dans la gestion optimale, eh bien, parfois, l'environnement est porteur pour aller chercher beaucoup de performance, mais parfois aussi, l'environnement est plutôt porteur à la protection du patrimoine accumulé. Et d'une certaine manière, ce coup de cœur, il vient du fonds euro, qui, n'en déplaise à ses contradicteurs, continue de répondre à ce besoin, je dirais, de première nécessité pour l'investisseur, hein, pour celui qui possède le patrimoine. Parfois, il est temps de préserver son patrimoine. Et nous verrons probablement en 2022 un appétit qui sera peut-être renouvelé vis-à-vis de cette classe d'actifs, de ce support d'investissement, tout simplement parce que les marchés actions seront probablement moins orientés, vont traverser des moments de turbulence qui seront un peu plus importants parce que nous changeons de monde. Et dans ces cas-là, on le sait systématiquement, c'est l'effet coffre, hein, finalement, l'effet coffre fort. C'est-à-dire que les investisseurs seront ravis de pouvoir bénéficier et jouir d'un actif qui leur permette de se protéger contre ces accès de faiblesse, ces accès de stress, ces accès de volatilité. Il est probable que le fonds euro fasse partie de ce panel d'actifs qui permettent de protéger son capital.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Tout de suite, dans le grand rendez-vous de l'épargne, on aborde la rubrique « Ça vous concerne », une de vos rubriques préférées, puisque c'est un peu la vôtre. Ce sont vos questions au magazine Capital, triées sur le volet par Thibault Lamy. Bonjour Thibault.
Bonjour Fabrice.
On accueille tout de suite notre premier expert, c'est Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
L'associé fondateur de Pixis Conseil. Et on a une première question de Thierry.
De Thierry, donc c'est un lecteur qui a entendu parler du dispositif Way Abordable. Il se pose la question parce qu'il a entendu aussi parler de son évolution en 2022. Il voulait savoir s'il avait intérêt à activer ce levier fiscal. Donc.
Alors, lorsqu'on parle du régime de Way Abordable, on parle en fait du régime COS. Il faut savoir que c'est le même régime qui a plusieurs appellations. Ce régime-là existe depuis 2017 et on a, il fonctionne sur un avantage fiscal qui est conféré en fait à un propriétaire qui accepte de minorer son loyer en fixant un plafond à son montant de loyer qui est fixé par l'ANAH, puisque en fait ça fonctionne avec une convention qui est signée avec l'Agence nationale de l'habitat et qui va donc fixer le montant maximum du loyer. Alors, l'interrogation est légitime puisque la loi de finances pour 2022 est venue modifier cet ancien régime loyer abordable qui fonctionnait plus très très bien et notamment qui fonctionnait plus très bien pour une bonne raison, c'est qu'à la fin de ce mécanisme du loyer abordable, on était sur un loyer qui était minoré et que par le mécanisme de plafonnement des loyers, on ne pouvait pas récupérer un loyer de marché. Donc forcément, beaucoup de propriétaires se sont dit « je vais me traîner mon loyer pendant pas mal d'années, c'est pas forcément intéressant ».
Si l'inflation repart.
D'autant plus. Donc c'est vrai que la loi de finances est venue apporter un certain nombre de nouveautés dans ce dispositif. La première nouveauté, c'est qu'on n'est plus dans le cadre d'un mécanisme de réduction de revenus, comme c'est-à-dire un abattement sur les revenus comme ça existait auparavant. On va passer sur un mécanisme de réduction d'impôts. Ce qui est important pour les gens qui nous écoutent, c'est que si, en fonction de la date à laquelle le conventionnement avec l'ANAH va être signé, va déterminer l'application du régime. Et on a jusque, 1er mars ou 1er avril, la date est actuellement encore un peu en suspens, mais toujours est-il que tout ce qui est signé encore aujourd'hui relève de l'ancien régime, et tout ce qui sera signé après le 1er mars ou après le 1er avril va rentrer dans le nouveau régime de la réduction d'impôts. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est qu'on n'a plus de zonage. Il y avait un zonage dans l'ancien régime A, B ou C. Ce zonage-là est supprimé. Donc, on est aujourd'hui sur une réduction d'impôt qui sera la même, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on se trouve. C'est ensuite juste par commune, en fonction de la zone plus ou moins tendue. C'est par commune qu'on aura une limitation des loyers maximum.
On passe d'une déduction donc, fiscale à une réduction d'impôt. Oui. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme taux Alors, avec ce nouveau système.
Dans les réductions d'impôts auxquelles on peut prétendre demain, il y a deux régimes. Un régime avec une intermédiation locative. Donc, lorsqu'on parle on passe par un bailleur social qui lui-même louera dans le cadre social, ou alors sans intermédiation directement. Lorsqu'on est sans intermédiation, la réduction d'impôts en fonction du régime qu'on choisit. Hein, il y a un régime intermédiaire, régime social, régime très social. Et donc là, sans intermédiation, on sera entre 15 et 35% de réduction d'impôts. Lorsqu'on est avec intermédiation, il faut savoir qu'on monte jusqu'à 65% montant de réduction d'impôts. Donc il est certain qu'en fonction de tous ces calculs, il faut faire des simulations pour savoir quel est le régime qui est le plus intéressant. Entre conserver mon ancien régime, puisque cet ancien régime, quelque part, permettait une corrélation avec son taux moyen d'imposition, puisque quelque part, j'avais un abattement sur mon revenu, et ensuite, je soumettais à mon impôt. Donc évidemment, mon avantage fiscal était là aussi lié à mon TMI. Et puis le nouveau régime de réduction d'impôts, où avec ou sans intermédiation, dans une location intermédiaire ou dans une location sociale, choisir le montant de réduction d'impôts qui sera pour moi le plus avantageux. Mais il y a des calculs à faire pour savoir si le régime est intéressant.
Ça veut dire qu'avec ce nouveau système du loyer abordable, on n'est pas forcément gagnant ?
Non, on peut ne pas être gagnant par rapport à l'ancien. Surtout si on est dans des tranches marginales élevées. L'ancien système qui me permettait d'avoir ma réduction d'impôt qui montait jusqu'à 85%, la réduction de revenus qui montait jusqu'à 85%. Donc on pouvait avoir un écrasement très fort de nos revenus avec une TMI très élevée. Forcément, pour ces gens-là, je pense que le jeu n'en veut pas la chandelle.
Très bien, merci Stéphane. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Pixis Conseil, notre ami Stéphane Absolu. Tout de suite, un nouvel expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Tout de suite, un nouvel expert, une nouvelle experte, Nathalie Cousy-Goussuas, notaire à Paris, et c'est une question de Sonia.
Oui Fabrice, c'est une question de Sonia qui a acheté en indivision un appartement avec son mari. C'est elle qui a remboursé pendant toutes ces années les mensualités de crédit. Et maintenant que les choses vont un peu moins bien, ils ont entamé une procédure de divorce et notre lectrice veut savoir si elle peut récupérer l'argent que finalement elle a avancé à son mari.
Réponse de Nathalie.
Alors la question de Sonia, elle est malheureusement récurrente lorsque les époux, voire même les concubins d'ailleurs, se séparent. Concrètement, la situation est classique. On a acheté un bien ensemble et il se trouve que pendant l'union, pendant le mariage, un seul des deux a payé seul les remboursements du prêt contracté ensemble ou pendant une certaine période. Concrètement, lorsqu'on se sépare, est-ce que celui qui a payé le prêt, la quote-part de l'autre en fait, peut réclamer quelque chose ? La situation, elle est très claire aujourd'hui. Alors déjà, notons que Sonia nous dit qu'elle a acheté en indivision. Donc manifestement, elle a acheté sous le régime de la séparation de biens avec son époux. Notons que si elle était mariée sans contrat, la question ne se poserait même pas, puisque les revenus qu'elle gagne appartiennent à la communauté, et donc la communauté paye les échéances du prêt. Donc là, manifestement, Sonia nous dit qu'elle est en séparation de biens. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un certain nombre d'années, la jurisprudence, la Cour de cassation, considère que le remboursement d'un prêt au mois le mois contracté pour acquérir la résidence principale, voire même la résidence secondaire, c'est une contribution aux charges du mariage, contribution pour laquelle chacun des membres du couple, chacun des époux est censé avoir payé sa part au jour le jour. Donc concrètement, normalement, il n'y a pas de compte. Ce qui veut dire que Sonia, si elle a payé plus que la quote-part de prêt, a priori, son époux ne lui devra rien parce qu'on considère que c'est de la contribution aux charges du mariage. Néanmoins, tout n'est pas perdu pour Sonia. Il faut qu'elle lise attentivement son contrat de mariage et le paragraphe relatif à la contribution aux charges du mariage. S'il est indiqué que l'époux qui a surcontribué peut apporter la preuve de sa contribution et demander une compensation, alors là, Sonia a intérêt à prouver qu'elle a payé non seulement le prêt, mais aussi l'ensemble des charges du mariage. Et ce n'est qu'à ce titre qu'elle pourra solliciter le remboursement de la quote-part de prêt payée par son mari. Donc vous voyez, Sonia, a priori, le remboursement du prêt qu'elle a fait, on considère, même en séparation de biens, c'est une contribution aux charges du ménage, du mariage, pour lequel, a priori, on ne fait pas de compte, c'est-à-dire que la porte est fermée à tous les comptes. Il en irait différemment si Sonia arrive à démontrer qu'elle a fait un apport plus important que son époux lors de l'achat ou encore si elle a remboursé par anticipation le prêt pendant le mariage. En fait, on s'attache au capital remboursé. Donc là, effectivement, pour le prêt ou pour le remboursement anticipé du prêt ou encore un apport en capital, la SONIA pourrait réclamer quelque chose. Enfin, et c'est une décision qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre chez les juristes, en ce qui concerne les concubins, ce qui donc là n'est pas le cas de Sonia, puisqu'a priori elle est mariée, la Cour de cassation est venue dire que les demandes de créance sont paralysées à l'expiration d'un délai de 5 ans. C'est-à-dire que là, tout à l'heure pour Sonia, je vous disais que si elle divorçait et qu'elle avait prouvé, elle prouvait qu'elle avait apporté une somme supplémentaire lors de l'achat, fût-ce il y a 20 ans, elle pouvait réclamer quelque chose à son époux. Eh bien, ça ne sera pas le cas si Sonia est en concubinage, parce qu'au bout de 5 ans, eh bien, on ne peut plus réclamer aucune créance vis-à-vis de l'autre. Voilà. Donc, n'oublions pas pour Sonia que ce qu'il serait intéressant, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas une médiation à faire pour essayer de faire entendre raison à son mari, parce que ce n'est pas parce que la jurisprudence ferme la porte à toute demande de créance que son époux peut ne pas accepter de la rembourser, ça peut se faire aussi. Hein. Donc, on rappelle toujours qu'en matière de divorce, quand c'est possible, eh bien, il est très utile d'avoir affaire à la médiation pour trouver une solution.
Merci à nos experts. On arrive au terme de cette édition du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Un grand merci à Julien Bouissou et à Thibault Lamy qui ont préparé cette émission. Merci en régie à Jason Pignero, à Nicolas Sandanassamy. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'Épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.